Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. L'université de Paul-Valéry, c'est une grande part de Montpellier, y compris au-delà de sa fonction d'enseignement. Les chiffres permettent d'en prendre la mesure. Excusez-moi. 23 000 étudiants, dont 20% internationaux de 137 nationalités différentes, 774 enseignants et enseignants-chercheurs, 1335 intervenants extérieurs, 654 autres personnels et 5 sites, dont un à Béziers. Passons sur les chiffres. Pour nous parler de quelques-uns de ces multiples aspects de l'Université Paul-Valéry, j'ai invité Fabrice Hirsch et Fabrice Chomara. Merci d'être venu au micro de Divergence FM. Fabrice Hirsch, vous êtes vice-président de l'université en charge de la communication, de la culture et des relations sciences-société. Fabrice Chomara, vous êtes directeur de la communication. Et nous allons croiser vos regards pour comprendre ce qui se passe, notamment en termes d'ouverture et de rayonnement de l'université. Mais avant d'aller du côté de Paul-Va, comme disent les étudiants ou les familiers, racontez-nous votre Montpellier. Fabrice Hirsch, vous êtes, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attaché et pourquoi?
Alors, je vais être un peu chauvin et retourner à Paul-Valéry sur notre campus.
Bah, écoutez, vous êtes là pour ça.
Mais effectivement, si on va sur le campus de la Route de Mende, et Fabrice sera sans doute d'accord, on va retrouver un musée à ciel ouvert. On a des statues, on a des œuvres d'art qui sont présentes aux quatre coins de ce campus. On a un musée, le musée des moulages, un des plus anciens de Montpellier. On a un théâtre. Le campus est encore en train de se transformer. On a toujours nos pelouses. On a la bibliothèque Atrium qui est en train d'ouvrir ses portes, effectivement. Donc voilà, je pencherai
donc
pour ce campus.
Vous proposez Paul-Va comme lieu de balade, une fille, ou de promenade pour des Montpelliérains qui vous ne connaissent pas, c'est un peu ça.
Effectivement.
En tout cas, pendant les heures d'ouverture.
Pendant les heures d'ouverture, effectivement, de 7h30 à 21h. Mais il y a de quoi vraiment se balader, découvrir des œuvres d'art. En plus de ça, il y a eu tout un travail qui a été mené ces 7-8 dernières années qui vise à mettre des cartels juste devant ces œuvres pour pouvoir les présenter. Elles sont disponibles sur l'application de l'université, l'application MAP, qui est téléchargeable sur les téléphones portables. Enfin, voilà, en tout cas, il est possible d'accéder assez facilement à ces œuvres d'art.
Alors, on va quand même prendre un peu de recul, zoom arrière, comme on dit. Quand vous recevez des amis ou des membres de votre famille, que leur dites-vous de Montpellier? Comment vous faites-vous, à quelques instants, guide non rémunéré de l'Office du tourisme? En tout cas, quelles sont les caractéristiques de la ville que vous mettez en avant?
Alors bon, quand je fais visiter Montpellier, c'est bien évidemment son centre historique, la place de la Comédie, la rue de la Loge et toutes les petites ruelles médiévales qui sont très dépaysantes quand on vient de l'Est comme moi. C'est ce que je montre principalement, mais il y a aussi le nouveau Montpellier, celui qui se trouve derrière l'hôtel de ville par exemple, qui est aussi très esthétique, me semble-t-il.
Les nouveaux quartiers avec les créations urbanistiques et architecturales que ces quartiers comportent. Et
effectivement, oui, c'est ça.
Alors, Fabrice Chomara, deux Fabrice autour de micro, c'est exceptionnel, profitons-en. Même question, quel est le regard? Bon, je le dis pour que l'éditeur le sache, vous avez été directeur de la communication de l'agglomération de Montpellier avant qu'elle se transforme en métropole. Et là, non pas à titre personnel, pour le coup, en promeneur de Montpellier, quels sont les lieux là, que vous aimez dans notre ville?
Bah, alors, je dirais que j'aime, ça va être une réponse qui ne va pas vous plaire, cher Alain, mais j'aime tout à Montpellier. Alors, moi, j'ai été étudiant ici il y a de très nombreuses années, avant de partir à Paris, plus de 20 ans, pour travailler dans les médias et puis dans la communication. Et donc, pendant longtemps, Montpellier, ça a été ce souvenir un peu
mythique,
à la fois merveilleux et un petit peu douloureux de ma jeunesse passée et perdue. Quand j'y étais étudiant, et finalement j'ai eu l'opportunité de revenir il y a un peu plus de 10 ans, c'était pratiquement inespéré, et de revenir d'abord à Montpellier et puis de revenir à Paul Valéry. Alors ça, c'était carrément incroyable.
L'Eldorado qui était inespéré jusqu'alors.
Une espèce de boucle qui se bouclait, et de revenir sur ce campus fabuleux, magnifique, effectivement, où j'invite chacun à venir découvrir si vous ne le connaissez pas. Et du coup, voilà, donc je me suis à nouveau retrouvé dans cette ville que j'avais regardée et aimée de loin, en me disant que plus jamais j'aurais l'occasion d'y vivre. Et donc, ce que j'aime, évidemment, c'est ce centre historique d'abord absolument incroyable, l'Écusson, dans ces ruelles où on peut se perdre et où on sent le sud battre, merveilleux. Et puis, c'est peut-être plus largement c'est la région dans laquelle on se trouve qui est d'une diversité absolument exceptionnelle. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Alors peut-être que les gens qui vivent ici ne s'en rendent plus compte, mais quand on passe de la Camargue à l'arrière-pays montpelliérain, on a vraiment une diversité de paysages absolument incroyables et uniques.
Les téléspectateurs s'en rendent compte depuis quelques années, puisque il y a plusieurs séries, je dirais, autres téléfilms sont tournés dans la région, et notamment en raison de la diversité des paysages. Mais on va quand même rester, si vous le voulez bien, à Paul Valéry et voir, et le sujet a déjà été abordé, comment se vivent, comment s'organisent et peut-être comment se développent les relations entre l'université et la ville, les liens à nouer sur ce plan-là. Alors, pour commencer, peut-être un cliché, donc une université repliée sur elle-même, enfermée dans son campus au nord de la ville, cette image n'est-elle pas exacte, enfin Fabrice Hirsch, sinon un très grand trait, et puis on verra le détail, pourquoi cette image reçue, ce cliché, vous paraît devoir être mis en cause?
Non, nous ne sommes pas une université repliée sur elle-même. Au contraire, nous faisons en sorte que des Montpelliéraines et Montpelliérains viennent nous rendre visite. Et inversement, nous aimons aussi aller à leur rencontre. D'une part, en plus de ça, Montpellier, ou l'Université Paul Valéry Montpellier 3, ce n'est pas uniquement le campus de la Route de Mende. Nous avons aussi d'autres sites à Montpellier. Le site Saint-Charles, qui se trouve juste à côté de la radio.
Oui, nous en parlerons. Oui.
Qui accueille un certain nombre de conférences, d'expositions ouvertes au grand public. Il y a un autre lieu qui est un peu plus méconnu, qui est le site Saint-Louis, un petit peu plus loin, mais qui est aussi très intéressant parce qu'il est au centre-ville. Enfin, il mériterait quand même une petite rénovation. Il y a Boutonnet, et puis nous sommes aussi implantés à Béziers. Mais sinon, pour revenir un petit peu sur la question, depuis ces dernières années, nous essayons justement de travailler à rendre l'université plus proche des habitantes et des habitants de Montpellier. Nous avons mis en place, notamment avec Fabrice, un cycle de conférences, tu parles Charles, qui vise à décrypter l'actualité vue par les universitaires. Donc nous avons eu des conférences sur les mouvements qui ont eu lieu en Iran, sur la guerre en Ukraine. Nous avons eu des conférences aussi sur les retraites. Enfin, nous essayons de coller un petit peu à l'actualité, et ce sont des manifestations qui, en tout cas, intéressaient la centaine de personnes qui venaient nous rendre visite. Après, il n'y a pas que ça. Paul Valéry, c'est une université d'art, de culture avant tout. Et pareil, nous sommes présents, nous organisons par exemple, le Musée des Moulages organise par exemple les conférences qui s'appellent les Mercredis d'Antiquité au niveau du musée Fabre, ce qui est également un rendez-vous pour les Montpelliérains, rendez-vous mensuel. On a plein de relations en fait qu'on met en place avec la ville. Nous sommes partenaires de la Comédie du Livre. Nous organisons
on va voir ça dans le détail. Là, vous brossez le tableau, bien sûr, c'est normal, on va y revenir. Alors, peut-être une question à Fabrice Chomara. Cet objectif de travailler sur la proximité, cet outil stratégique de rayonnement, d'attractivité de l'université, là, je dirais, quels en sont les principes et comment tout ceci fait sens dans la manière dont l'université communique et, ça a déjà été évoqué d'une manière générale, travaille.
Alors, l'université Paul Valéry, elle se situe dans un paysage où il n'y a pas qu'elle, et il y a notamment une autre université qui s'appelle l'Université de Montpellier, qui elle-même est plus axée sur les sciences dures. Et qui ont peut-être, dans l'esprit du grand public, peut-être plus de reconnaissance que les sciences humaines, qui est notre champ d'intervention à nous. Ce qui explique peut-être en partie le fait que l'autre université, qui par ailleurs est plus grande, elle fait, il y a à peu près 40 000 étudiants, je crois, à l'UM, alors que nous, on en a un peu plus de 20 000, soit peut-être plus visible dans le paysage montpelliérain que l'université de Montpellier, Paul Valéry. Pour autant, effectivement, comme le disait Fabrice, on est très très actif dans les différentes initiatives qu'on prend, tant sur le plan de l'enseignement, de la recherche ou de la culture, enfin tous les champs que couvre notre université. En termes de stratégie de communication, je dirais, comme vous l'avez rappelé, moi j'ai travaillé pendant quelques années à l'agglo de Montpellier, puis après au sein de la ville métropole. Bien sûr, ce qui caractérisait la mission de la direction de la communication, c'est les moyens et humains et financiers qui pouvaient être mis à la disposition au sein d'une collectivité locale, qui ne sont évidemment pas les mêmes quand on est...
Oui, il y a une modestie qui voilà. Va de soi. Là.
Mais bon, donc des moyens plus modestes, bien qu'on ouais. Ait quand
modestie
même...
Modestie des moyens, mais pas modestie des ambitions.
Alors, ni des ambitions, et puis même, on a quand même une équipe d'une dizaine de personnes au sein de la direction de la communication de l'Université Paul Valéry, donc ce n'est pas non plus rien du tout, quoi. Hein. Je ne travaille pas tout seul dans mon coin. Du coup, face à cette modestie des moyens, bah, il faut être... peut-être plus innovant. Et effectivement, comme le disait Fabrice, l'idée, c'est au-delà des actions qu'on porte nous-mêmes, car il y en a qu'on porte nous-mêmes tout seul avec nos petits bras. Par exemple, ce cycle de conférences, tu parles, Charles, dont bien, on en donnera d'ailleurs, il y aura un prochain rendez-vous au mois de mai, on aura peut-être l'occasion d'en parler. L'idée, c'est aussi pour être plus visible dans cet espace public territorial montpelliérain, c'est effectivement de s'associer ou de se greffer à des événements qui ont beaucoup de visibilité. Donc, comme la Comédie du Livre, on en dira peut-être un mot, dont une partie du programme repose sur ouais, des chercheurs de l'université.
On en parlera plus tard.
Mais aussi, par exemple, l'année dernière, et je pense qu'on le reconduira cette année, au mois de septembre, il y a un festival qui s'appelle What a Trip Festival, qui est un festival autour du film d'aventure et la découverte de la nature, enfin des valeurs qui sont aussi les valeurs de notre université, dans lequel on est également partenaire. Je crois qu'un de nos masters sera présent dans le cadre du Printemps des comédiens, là aussi au domaine d'eau. Donc voilà, donc on essaye d'être présent aussi dans ces temps, dans ces grands rendez-vous culturels que les Montpelliérains connaissent bien et dans lesquels on a aussi, nous, des choses à dire et des choses à apporter, ce qu'on essaye de faire en le rendant visible.
Alors, ce que beaucoup de Montpelliérains connaissent moins bien, c'est le site Saint-Charles. Alors, pour l'expliquer, bon, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de passer par là, c'est entre la place Albert Ier et l'ancien hôpital Saint-Charles, bon, dévolu maintenant à des logements, comme le savons, c'est dans ce lieu peu visible du côté de la place Saint-Charles. Et donc, qu'est-ce qui est prévu, là, peut-être, pour que ce lieu, pour aller se balader, pour aller assister à une conférence, comme c'est indiqué, puisse être plus facilement repéré et donc fréquenté?
Alors déjà, le site Saint-Charles accueille nos différentes unités de recherche, enfin la plupart de nos unités de recherche.
Une vingtaine, c'est ça ?
Une vingtaine de laboratoires de recherche à Paul Valéry. Il y a quelques cours, mais sinon, Saint-Charles, c'est une ruche. Il s'y passe toujours quelque chose. Il y a des conférences, des ateliers, des expositions qui sont organisées assez régulièrement. Et pour voir un petit peu ce qu'il en est, c'est assez facile d'aller consulter le site internet de l'université où on a l'agenda
des rendez-vous proposés.
Oui, c'est ça.
Très bien.
Peut-être alors, effectivement... Pour les gens qui ne connaissent pas bien notre université, parce que le grand campus, c'est ce qu'on appelle le campus Route de Mende, qui lui se trouve plus au nord de Montpellier, qui sera bientôt d'ailleurs relié au centre-ville par la ligne 5 quand elle sera effective.
Oui, vous êtes impatient, j'imagine.
Fin 2025, oui, absolument. Donc on aura vraiment une station devant le campus, devant ce fameux bâtiment Atrium, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
Nous allons
en
parler, oui.
Et donc là, ça nous rendra beaucoup plus accessible. Mais on a ce deuxième site Saint-Charles. Il y en a d'autres encore. Alors je ne sais pas si on fera le tour de la propriété, mais le site Saint-Charles dont vous avez parlé, qui effectivement, du coup, pour l'instant, nous sert beaucoup pour accueillir le grand public sur différentes initiatives, et où on expose aussi depuis 2 ou 3 ans maintenant, parfois sur les grilles du site, vous avez peut-être vu des expos à l'occasion, par exemple, de la Fête de la Science ou de différentes expositions qu'on peut réaliser, des panneaux qui sont installés sur les grilles. C'est une idée qu'on a piquée au Jardin du Luxembourg à Paris, puisque c'était fait par d'autres avant nous, et qui permet justement de le rendre visible. Mais On a comme objectif, là, dans les, mais c'est un petit peu long sur le plan administratif et en termes d'autorisation, mais on va y arriver, à mettre une signalétique sur ce bâtiment.
Oui, parce que l'architecte des bâtiments de France a l'œil sur cette affaire, j'imagine, en tout cas, son mot à dire. Oui.
C'est un bâtiment classé qui, je crois, date du XVIIe siècle ou quelque chose comme ça, qui a été restauré il y a quelques années d'une façon absolument extraordinaire. Il y a un mélange d'ancien et de moderne qui est merveilleux, donc... Là aussi, c'est un bâtiment qui mérite d'être vu.
Oui, c'est ça. Et la façade, côté place de premier, est l'ancienne. Puis, il y a une façade moderne avec un grand espace de l'autre côté.
Voilà. Et donc, souvent, je pense que quand on est sur la place Albert Ier, on voit ce bâtiment. Je pense que la plupart des Montpellierains l'ont vu sans savoir ce que c'était. Or, c'est effectivement un bâtiment de notre université. Et donc, ça mérite qu'on l'indique de façon un peu plus lisible.
Et une station de tram tout à côté qui plus est. Alors, autre grande opération, c'est Atrium, donc un nouveau bâtiment à l'architecture novatrice, donc une espèce de lieu emblématique qui raconte quelque chose du rayonnement de l'université. Alors, qu'est-ce que c'est un peu ce bâtiment ? Donc, il a ouvert ses portes le 3 avril, il y a quelques jours. Il sera officiellement inauguré avec le ruban tricolore qui s'y est en juin. Que peut-on dire, Fabrice Hirsch, de l'Atrium ?
Atrium, c'est un projet qui a 16 ans. C'est un projet qui a été mis en place par notre présidente actuelle, qui va l'inaugurer donc au mois de juin prochain. Et en fait, c'est une sorte de learning center. Dans ce bâtiment, à l'architecture vraiment impressionnante, 15 000 mètres carrés sur plusieurs étages, on y retrouve bien évidemment notre bibliothèque. On y retrouve des salles de travail en groupe, on y retrouve un auditorium, on y retrouve également une salle d'exposition, du matériel d'un écrit pour tout ce qui est travail sur les multimédia. Voilà, c'est un petit peu, c'est ça, Atrium.
Alors, Atrium, on va le répéter, mais en illustrant le propos, ouvert sur l'extérieur. Alors, la bibliothèque universitaire, la BU, comme on dit, c'est peu connu, est ouverte aux tiers, à fortiori celle-là, donc, qui est équipée, conçue pour l'accueil, pas seulement d'étudiants, de chercheurs, puissent se faire, et aussi les équipements que vous avez indiqués, l'Atrium notamment, permettra de recevoir, d'installer des spectacles, des conférences, des expos.
Tout à fait. Les Montpelliérains sont les bienvenus pour assister aux conférences qui auront lieu dans l'auditorium, venir visiter les expositions qui s'y dérouleront. Et pareil, c'est peut-être un peu moins connu, mais les bibliothèques universitaires, elles sont accessibles à tout le monde. Il y a une petite cotisation, je crois que c'est de l'ordre de 30-33 euros à payer.
Une cotisation annuelle et une carte qui permet d'accéder au fond.
Oui, c'est ça, et d'emprunter des ouvrages comme les étudiants.
Très bien. Alors, il y a un énorme projet aussi qui se présente, qui participe, je dirais, de la même ambition, de la même logique. Il s'appelle Miranda. En Miranda, ça se décode. Alors, veuillez m'excuser pour mon excellent en anglais. Montpellier Institute for Research Creation, on verra ce que c'est, on Art, Culture and Heritage in a New Digital Age. Donc, en gros, l'Institut Montpellier-Rennes de recherche-création sur l'art, la culture et le patrimoine, je traduis héritage, dans un nouvel âge digital, dans un nouvel âge numérique. Alors, qu'est-ce que c'est que Miranda, Fabrice Hirsch, globalement, puisque c'est une opération nationale, et comment, de manière, semble-t-il, très active, en tout cas déterminée, l'Université de Paul Valéry entend y prendre sa part ?
Alors, effectivement, l'Université Paul Valéry a été lauréate d'un projet d'excellence qui s'intitule Miranda. Les porteurs de ce projet sont Thierry Verdier, de l'École d'architecture, et Réjeanne Roure, qui est à l'Université Paul Valéry à Montpellier 3. Et en fait, l'ambition de ce projet, c'est de faire de Montpellier un étendard de tout ce qui est recherche-création.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, recherche-création ? Parce que c'est ce collage entre... On comprend la recherche, on comprend la création, notamment artistique et culturelle. Comment ce que signifie, comment peut se traduire ce couple, recherche-création ?
Alors, la recherche-création, c'est le fait que la recherche puisse alimenter la création artistique et réciproquement. Donc, l'idée, en fait, c'est que un artiste, par exemple, quand il souhaite réfléchir ou quand il a une réflexion sur une œuvre qu'il souhaite mettre en place, installer, il peut bien évidemment se fonder sur ses réflexions, sur ses envies, sur son style, etc., mais également sur des recherches qui sont menées à l'université. l'université notamment. Miranda, c'est aussi un projet qui vise à structurer tout ce qui se fait au niveau art et culture et industrie culturelle et créative à Montpellier. Il n'y a pas que l'université Paul Valéry qui en fait partie. Il y a bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'école d'architecture. Il y a l'école de chorégraphie qui est juste à côté. Il y a le MOCO, le CNRS.
C'est un certain nombre de partenaires, d'institutions culturelles, pour la plupart, mais pas que, ou dans le monde de l'enseignement, je pense à l'école d'architecture, qui enracine ce projet au-delà, je dirais, de la seule université Paul Valéry.
Un certain nombre, je dirais, je parle sous le contrôle de Fabrice, mais c'est l'essentiel de l'écosystème de la création culturelle à Montpellier.
C'est ça. L'idée, c'est vraiment de structurer le site sur ces questions d'art, de culture, de patrimoine.
Alors, trois pôles scientifiques, je les rappelle au passage, sciences du passé et du patrimoine, création artistique culturelle et impact sur la société. On voit le lien à ce qui s'est dit depuis le début de cette émission. Alors, l'appel à projets, les soutiens à la recherche et à la création est lancé. Là, donc, des porteurs de projets, mais il faut bien sûr qu'ils soient en lien étroit avec ce qui se passe à Paul Valéry et ailleurs, viennent d'être lancés. Donc, vous attendez des projets. Remise de la copie le 27 mai, avec un certain nombre de projets qui vont contribuer, chacun pour leur part, à cette ambition collective. Ça se présente comme ça, ce jour.
Oui, effectivement, l'idée, c'est de faire émerger un certain nombre de recherches au sein de l'université et de ses partenaires, et ensuite de les mettre en place et de faire en sorte que ces recherches soient à la disposition des Montpelliéraines et des Montpelliérains. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de ne pas avoir une fac, une université qui est repliée sur elle-même, mais au contraire, d'aller vers les gens, et rien de mieux pour aller vers les gens que d'utiliser l'art, la culture et le patrimoine.
C'est ça. Donc, il y a un lien donc, que je souligne au passage entre ce que fait historiquement l'Université Paul Valéry dans le champ des sciences humaines, dans le champ de l'art et de la culture, et ses formes d'expression, de créativité dans ces domaines-là qui se situent ailleurs dans un certain nombre d'organismes et d'institutions à Montpellier. C'est ça, c'est passerelle ou c'est entre ces univers-là.
Effectivement, l'idée aussi, c'est de créer des liens entre ces différents établissements, ces différentes structures, pour qu'elles collaborent ensemble.
Alors bon, les projets, on va voir ce qu'ils en sont. Alors, c'est un projet pluriannuel.
Oui, d'une dizaine d'années.
Une dizaine d'années. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir ça en tête. C'est un projet de longue haleine qui est à ses tout débuts, qui s'installe, qui va produire un certain nombre d'opérations. Il y a un peu d'argent à la clé, on peut le dire quand même.
Oui, c'est 12 millions d'euros.
Voilà. Sur l'ensemble de la période. Quoi,
c'est
hein.
Ça,
voilà.
Et avec la région qui abonde également. Voilà.
Donc il y a de l'argent public hein, de manière assez conséquente, ce qui en période de difficulté ou de disette d'argent public n'est pas négligeable. Chacun le comprendra, chaque contribuable, auditeur, auditrice le comprendra. Et donc des moyens, je dirais, d'atteindre cette ambition assez novatrice, quoi, qu'il a aussi sort de l'épure habituelle à un monde d'une université.
Effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet Miranda, c'est le seul projet qui portait sur des questions d'art et de culture qui a été financé sur toutes les universités françaises.
Ah, ça singularise aussi Paul Valéry, la manière dont Paul Valéry accroche son wagon à ce train-là national, d'avoir choisi ce domaine-là, ce champ-là d'action.
Effectivement, en tout cas pour le ministère, c'est la signature de l'établissement.
Et je crois qu'on peut le mettre en lien aussi avec le territoire dans lequel ça s'inscrit, c'est-à-dire la place des ce qu'on appelle les ICC, les industries culturelles et créatives, dans l'ADN économique de notre territoire. Le fait qu'on était récemment, l'Université Paul Valéry était partenaire à candidature Montpellier 2028, même si elle n'a pas abouti, on voit l'importance de ces industries culturelles dans notre territoire, et c'est aussi pour y contribuer que l'Université Paul Valéry se mobilise à travers ce projet, et pour jouer pleinement son rôle dans son territoire et dans le développement et le potentiel économique qu'il y a aussi derrière ces industries.
Alors très bien, donc on va attendre la suite avec impatience. Et peut-être on sera l'occasion de vous inviter dans quelques temps, là, quand les projets auront mûri et qu'on seront visibles hein, de la part des habitants de Montpellier, de la métropole et j'imagine au-delà. Alors on a évoqué, je dirais, des partenariats avec un certain nombre d'opérations. Donc, peut-être un mot sur le festival Plume de Presse, qui est un des volets, pas toujours connu d'ailleurs, de la comédie du livre, si l'un d'entre vous veut bien en parler, peut-être Fabrice Hirsch.
Alors, Plume de Presse, c'est un festival qui est organisé par une de nos collègues, Marie-Ève Terranti. Et c'est un festival qui s'inscrit dans le cadre de la Comédie du Livre. C'est un événement satellite à la Comédie du Livre. L'idée, en fait, c'est de proposer des ateliers, des tables rondes, des expositions sur le lien entre le journalisme et la littérature.
Alors ça, c'est très riche parce qu'on a tous en tête, bon, de tout temps, je dirais, des journalistes et écrivains, hein, bien d'autres, Kessel et autres, des grandes figures de la littérature qui ont aussi de remarquables journalistes. Et c'est cette veine-là qui va être mise en relief à la faveur de ce festival. Oui, peut-être, en patrie, Fabrice Chomara.
Oui, oui, ce partenariat entre Plume de Presse et la Comédie du Livre est encore jeune, hein, parce que ça a commencé l'année dernière, il y a eu une première édition. C'est renouvelé cette année, et j'espère que ça le sera beaucoup. Donc, nous, en termes de communication, on dit que c'est un événement dans l'événement, en fait. Hein, c'est un festival, un petit festival au sein du grand festival que représente la Comédie du Livre, mais s'intégrant pleinement dans le programme de la Comédie du Livre. Alors, il y a quelques auteurs, mais Alain, je vous laisse peut-être les citer. Il y a quelques auteurs qui sont annoncés déjà cette année. Et bien sûr, ça se passe, on peut le préciser, à Saint-Charles, le site dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est ouvert, bien sûr, à toutes les personnes qui... ouvert gratuitement à toutes les personnes intéressées.
Et alors, ça se passera où ? Chez vous, là, ou quelque part ?
À Saint-Charles.
À Saint-Charles. Même chose, Saint-Charles, voilà. Comme pointe avancée de l'université. Absolument. Au cœur de la ville.
Ce qui est très accessible, le tram étant juste devant.
Très bien. Alors, on va peut-être, avoir fait ce tour d'horizon dont on a vu qu'il n'était pas complet. Alors, il y a un thème, on l'avait évoqué en préparant cette émission, mais qu'on testera peut-être une autre fois, c'est la recherche, ça a été évoqué, hein, 21... équipe dans le cadre de l'Université Paul Valéry. Et on a bien sûr là aussi un cliché dans les têtes, la recherche, c'est de la physique, c'est de la chimie, c'est de la médecine, c'est de la pharmacie, et c'est pas nécessairement des sciences humaines ou l'art qui constitue, on l'a vu à propos de Miranda, constitue un des points d'appui à des activités scientifiques. Donc ça, bon, peut-être en dire un mot, là, Fabrice Hirsch, de la place qu'a la recherche.
Oui, enfin, l'Université Paul Valéry, c'est aussi une université de recherche. Nous avons des chercheurs qui sont cités, qui sont reconnus nationalement, internationalement également. Et à l'Université Paul Valéry, on a par exemple des chercheurs qui travaillent en géographie sur des questions relatives à l'environnement, les problèmes de développement durable notamment. On a des écologues qui sont très reconnus, des psychologues qui travaillent sur des thématiques comme l'autisme par exemple. On a des chercheurs en sciences du langage. Donc c'est vraiment une université qui est très intéressante aussi de ce point de vue-là.
Alors revenons brièvement à vos propres activités. Donc vous travaillez dans le champ des sciences du langage, plus particulièrement dans la phonétique. Alors dites-nous ce que c'est que la phonétique pour qui ne le saurait pas.
Alors je ne vais pas faire un cours de devant vous, mais la phonétique c'est la science qui s'intéresse à la façon dont les sons de la parole sont prononcés. Perçus et transmis. Donc globalement, me concernant, je suis spécialiste des troubles de la parole et plus précisément du bégaiement encore. Donc globalement, je travaille sur des données articulatoires, des IRM, ou alors je pose des petits capteurs sur la langue, les lèvres, etc. pour voir en gros où va la langue quand des personnes qui bégayent éprouvent des difficultés en s'exprimant.
Voilà. Et donc il y a un débouché, je dirais, opérationnel en termes d'accompagnement de ces personnes-là. Comme on peut l'imaginer, ces recherches, outre leur intérêt spécifique, elles ont des retombées pratiques pour nos concitoyens.
Effectivement, en fait, ce sont des recherches que l'on mène avec des orthophonistes, des phoniatres. En fait, on se nourrit l'un et l'autre de ce que l'on sait sur ce trouble. Mais la phonétique, ce n'est pas que ça. On a des spécialistes d'autres troubles que de la parole. On a des gens qui travaillent notamment sur l'aphasie. Mais plus largement, la phonétique, ça peut aussi être l'étude des sons présents dans les langues, et notamment dans les langues rares ou en tout cas peu étudiées.
Très bien, mais voilà une manière de plus de peut-être tuer quelques idées reçues. Donc, Paul Valéry, Paul Va, ça n'est pas que quelques étudiants en lettres plus ou moins chevelus, encore qu'ils le soient moins qu'autrefois, mais c'est beaucoup de choses dont on aura, je l'espère, je vous y inviterai le moment venu, l'occasion de reparler une autre fois. Merci à chacun de vous.
Merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.